RCF. L'invité de la matinale, Grégoire Gindre.
Grégoire, votre invité ce matin est le père Benoît de Sinetti, prêtre du diocèse de Paris, également aumônier du département international des scouts et guides de France.
Bonjour père Benoît de Sinetti.
Bonjour Grégoire.
Vous êtes aussi chroniqueur chez RCF les vendredis, tribune chrétienne peu avant 7h. Vous êtes également l'auteur de l'ouvrage Lazare, le ravi aux éditions du Cerf, un livre publié en plein carême à quelques jours de Pâques. On ne cesse de le dire depuis ce matin dans cette matinale, lundi saint aujourd'hui, dans un contexte international difficile, Gaza, l'Ukraine, la Russie même, on l'a vu vendredi. Cette semaine sainte a un sens bien particulier cette année.
Oui, en fait, je pense qu'elle a toujours un sens bien particulier. C'est vrai qu'on est toujours rattrapé par l'actualité, surtout quand elle se montre particulièrement tragique, comme c'est le cas en ce moment. Je pense que c'est l'occasion de pouvoir réentendre un peu ce que nous chantions dans le psaume de la messe d'hier. Hein, Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? D'entendre cette parole qui monte de la poitrine et des entrailles de bien des hommes et bien des femmes aujourd'hui, qu'ils soient dans des pays en guerre, qu'ils soient dans des pays où la persécution règne, qu'ils soient même chez nous, sur le trottoir, dans les hôpitaux, abandonnés. Ce cri qui rejoint celui de Jésus, ce cri auquel Jésus communie et qui nous donne d'entrer dans la semaine sainte cette compréhension que la mort et que nos morts ne peuvent en aucun cas être le dernier mot de nos existences.
Seigneur,
parce qu'il est là.
Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est vrai que très concrètement, comment fait-on pour vivre sa foi en ce moment, père Benoît Sinetti? Ça peut paraître difficile de croire comme ça quand l'humanité souffre.
Oui, mais vous savez, l'humanité, elle a toujours souffert, comme le dit Jésus, un mot dans l'évangile, des pauvres, vous en aurez toujours avec vous. C'est pas par cynisme ou par mépris, c'est une réalité. C'est-à-dire que le fantasme de notre époque est de croire que la vie peut être un moment où la souffrance s'échappe. C'est pas vrai. La vie, elle est intimement liée à la souffrance et tout le monde en fait l'expérience. Et chacun le fait pour lui-même en se disant, bon, bah, évidemment, je peux pas me plaindre, il y a pire que moi, etc. Et c'est vrai dans l'absolu, et en même temps, ce que je porte comme souffrance est une souffrance réelle, et donc elle s'impose à moi, voilà. Donc cette réalité-là, elle a toujours été... Ce qui est particulièrement fort au moment de la semaine sainte, c'est de prendre conscience que cette réalité qui est la nôtre, et qui a toujours existé, et qui existera toujours, qui est inhérente à l'état d'être humain, cette réalité, c'est celle-là que Dieu a choisi d'épouser, pour précisément venir à notre rencontre et nous révéler l'amour dont nous sommes aimés. C'est ça qui est le plus important.
On a le droit de se demander quand même aussi où est le Seigneur dans ces moments ou pas.
Mais bien sûr. La meilleure preuve, c'est que sur la croix, Jésus pose cette question. Alors bien sûr, on va nous répondre que, et c'est vrai que cette question, elle est issue d'un psaume et que Jésus récitait le psaume sur la croix, mais il aurait pu en choisir un autre. Or, il choisit ce psaume-là et mieux encore, ceux qui sont au pied de la croix et qui l'entendent murmurer ou parler dans son agonie choisissent de mettre dans l'évangile ce verset-là précisément et pas un autre du psaume parce que ce verset-là les touche et se disent mais même si Jésus lui-même en est à pouvoir reprendre cette phrase-là, alors quoi? Ben voilà. Et c'est tout le mystère, c'est ce alors quoi? Ben, c'est-à-dire que, en prononçant ces mots-là, Jésus nous montre, nous manifeste qu'il vient vraiment rejoindre ce que nous sommes au plus profond, y compris dans les ténèbres et les absences de notre humanité, pour pouvoir y habiter avec son amour et sa lumière. Alors, cette question de qu'est-ce que fait Dieu? Où est Dieu? Elle est la question naturelle de tout homme dans l'épreuve, et c'est à cette question-là que Jésus vient répondre, non pas en imposant une manière de voir ou des principes, etc., mais en communiant, en choisissant de communier au plus intime de ce qui peut être difficile et lourd dans notre humanité.
Le Christ et même les institutions de l'Église demandent aux fidèles d'être des disciples missionnaires. Comment être missionnaire aujourd'hui? Que peuvent faire les chrétiens dans leur quotidien très concrètement pour cette réalité en Terre Sainte ou même en Ukraine?
Bah, d'abord, la mission, elle nécessite d'abord la rencontre. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être missionnaire si on n'est pas d'abord disciple. Le disciple, c'est celui qui rencontre le Christ, qui fait l'expérience du Christ et qui choisit au fond de son cœur d'essayer de le suivre. Voilà. C'est la condition préalable. C'est avoir ce désir de suivre Jésus parce que d'une manière ou d'une autre, je l'ai rencontré. Quand je dis rencontré, je ne parle pas nécessairement comme Saint Paul à Damas qui tombe de son cheval, mais je veux dire plus simplement dans la vie de tous les jours à travers des gens qu'on rencontre, à travers des situations qui marquent nos existences et où on se dit tiens là, dans cette rencontre, dans cette situation-là, vraisemblablement j'ai vécu quelque chose de l'ordre d'une rencontre avec le Christ. Ça peut être la prière évidemment aussi. Ça c'est la condition préalable. Après missionnaire c'est simplement, j'allais dire, c'est la respiration du disciple. C'est-à-dire, si je choisis de suivre le Christ parce que j'ai fait l'expérience de sa rencontre et que j'essaye de la revivre cette expérience dans mon quotidien par mes choix de vie, par mes choix d'action, par ma vie de prière, eh bien nécessairement j'en suis missionnaire, c'est-à-dire j'en suis porteur pour le monde. Finalement, le baptisé, c'est celui qui porte dans son cœur, comme un trésor, dirait Saint Paul, comme un vase d'argile porte en son sein un trésor qui est la présence du Christ. Et dans nos fragilités, dans nos faiblesses, dans nos difficultés à vivre le quotidien, nous savons que le Christ est avec nous, qu'il est en nous, et que nous avons à porter son image au monde. C'est-à-dire que, en fait, il passe à travers nos paroles, à travers nos émotions, à travers nos gestes, à travers nos choix, on en est responsable. Dieu nous rend responsable de sa présence.
Il est presque 8h17, nous sommes avec Père Benoît de Cinetti, auteur de Lazare, le ravi aux éditions du Cerf. Un mot sur la figure de Lazare, l'ami de Jésus, une histoire qui rejoint notre propre quête d'amitié et de vie, écrivez-vous. Cette fraternité entre Lazare et Jésus, décrite tout au long de l'ouvrage, elle a du plomb dans l'aile aujourd'hui, on pourrait dire. Chaque décision aujourd'hui est à débat, à opposition, tension. On haït parfois l'autre parce qu'il pense différemment. Quelle place pour la fraternité dans notre société ?
Si vous voulez, d'abord, pour la figure de Lazare, moi, ce qui me frappe beaucoup dans l'évangile, c'est qu'on dit tout et on dit rien de lui. C'est-à-dire qu'on dit, on dit rien au sens où on ne sait rien de sa vie, sinon qu'il est mort un jour et qu'il a été réveillé par Jésus. Voilà. Il a deux sœurs, mais par contre, on sait l'essentiel, c'est que il est dans l'évangile décrit comme l'ami de Jésus, comme vous l'avez très justement rappelé. Et c'est cette amitié qui est unique. Il n'y a pas d'autre personne dans l'évangile dont on dise explicitement qu'il est l'ami de Jésus. Et en ce sens, il a un peu le prototype de chacun d'entre nous, puisque tous ceux qui cherchent à suivre Jésus le reconnaissent lui comme leur ami et cherchent à être amis en lien d'amitié avec lui. Donc Lazare, il est la figure du croyant,
on est tous des Lazares, du disciple.
On est tous des Lazares, c'est-à-dire d'abord on a tous à être réveillés de nos torpeurs, à sortir de nos tombeaux et puis à faire des choix, et ce sont ces choix-là, le choix de suivre le Christ dans une forme de radicalité, c'est-à-dire de dire c'est toi que je suis et pas un autre, c'est ça qui est le plus difficile, qui doit être le plus quotidien aussi, parce que on n'en a jamais fini avec ce choix-là et qui est le plus essentiel dans nos vies.
Cette fraternité, c'est justement une valeur essentielle de notre pays. On en a un petit peu perdu le sens profond avec tous ces débats sociétaux.
Oui, alors c'est-à-dire qu'il y a une manière d'exister ensemble, et c'est sans doute quelque chose que nous vivons aujourd'hui, qui consiste à nous opposer en permanence les uns aux autres. Alors on dit souvent, l'adage est assez populaire, hein, de diviser pour régner. Je ne sais pas si c'est le cas aujourd'hui, mais en tout cas ce qui est clair, c'est que l'ultra communication dans laquelle nous sommes entrés, cette société politique de l'ultra communication, est une société qui clive infiniment, parce que la communication doit toujours être performante, elle doit toujours partir d'exemples concrets, souvent d'exemples émotionnels, etc. Et donc elle vient cliver en permanence notre cohésion sociale. Voilà. Après, la question de la fraternité, elle se repose du coup de manière renouvelée. Moi, je pense que les chrétiens dans cette société qui est de plus en plus clivée, qui est de plus en plus morcelée en somme d'intérêts individuels qui s'opposent et qui s'affrontent de plus en plus vigoureusement, nous devons proposer un autre modèle, un autre visage, une autre réalité qui est plus essentielle, qui est plus profonde et qui est plus porteuse de fruits. Ça, c'est évident. Cette fraternité que nous goûtons, non pas parce que nous choisissons de former des petits clubs de gens sympas qui se retrouvent entre eux, etc., mais parce que c'est le Christ qui nous réunit, au-delà de tous les clivages qui peuvent nous distinguer, nos opinions politiques, nos goûts, nos préférences culturelles. Lui nous réunit en nous disant, en fait, c'est vous que j'ai choisi et que j'envoie au monde pour porter la bonne nouvelle de l'amour dont Dieu aime les hommes et qui révèle que Dieu a le visage du Père. Mmh. Et donc, si Dieu a le visage du Père, à ce moment-là, l'ensemble de l'humanité se reconnaît de manière claire comme enfant de Dieu et donc comme frère et sœur.
Fraternité, c'est le terme aussi utilisé par les évêques quand il a été question du projet de loi fin de vie, c'était il y a quelques semaines. Il ne faut pas dévoyer la fraternité, explique-t-il. C'est difficile de trouver quand même une quelconque fraternité sur ces sujets sociétaux, émotionnels aussi, vous avez dit, l'IVG, la fin de vie. Comment on fait pour trouver cette fameuse fraternité, l'amitié de l'autre et pour l'autre que vous mentionnez dans votre livre ?
D'abord, il faut rappeler que ce sont des sujets qui sont éminemment graves, c'est-à-dire qu'on ne peut pas jouer avec ces sujets qui mettent en cause la mort et la vie des gens et qui impriment profondément dans l'entourage de ceux qui choisiraient par exemple l'euthanasie ou bien qui ont recours à l'avortement, qui impriment dans l'entourage de ces personnes-là des choses très très profondes et très douloureuses. C'est-à-dire que on peut pas jouer avec les symboles, on peut pas travestir les mots simplement pour faire les gros titres des journaux et pour faire passer des projets de loi parce qu'il faut meubler le temps du débat parlementaire et donner l'impression qu'on fait des choses. Très concrètement, moi j'ai été extrêmement gêné, comme beaucoup de gens, par l'inscription dans la Constitution du droit à l'avortement. La question, c'est pas tant d'abord, même si elle est une question essentielle et qu'il faut en débattre, et qu'on n'en débat pas assez parce que la parole là-dessus est très cloisonnée et très feutrée, c'est pas tant la question de l'avortement, c'est la question de cette espèce de solennisation, de grande fête nationale, de battage invraisemblable, et pour tout dire assez grossier, qu'on a fait autour de ce sujet-là, en faisant un événement majeur et festif.
C'est une ligne rouge à la fraternité.
Si c'est lunaire dans le sens où c'est quand même un déni complet de ce que l'avortement provoque comme souffrance d'abord dans le cœur des femmes qui y ont recours et probablement aussi dans le cœur de ceux qui le pratiquent dans l'entourage médical et puis dans les familles qui y sont associées. Donc ça, c'est déjà des choses qui sont très lourdes. Moi, j'ai vu des médecins, je vois beaucoup de médecins, je suis curé de paroisse à Lille qui est une ville étudiante, il y a beaucoup d'étudiants en médecine, beaucoup de jeunes médecins qui sont là et honnêtement, je suis sidéré de voir la manière dont ceux-ci sont très inquiets de ce qui se passe, parce qu'ils disent, mais en fait, notre liberté de conscience, et puis tout ça, ils savent bien la gravité que ça procure, que ça occasionne. L'euthanasie, c'est pareil, dans les hôpitaux, quand des médecins doivent réfléchir sur la poursuite de traitement, de quel traitement pour des personnes qui sont à l'agonie, etc., ce sont des décisions très très lourdes, qu'on peut pas comme ça gérer, comme les Jeux Olympiques, si vous voulez, c'est pas un événement festif et mondain, ce sont des choses absolument essentielles qui méritent bien plus que de sélectionner quelques dizaines de nos concitoyens pour les faire débattre ensemble, mais qui concernent l'ensemble de la nation. Et tout ça, à mon avis, demande beaucoup plus de respect que la manière dont c'est traité aujourd'hui.
Et le message est passé. Merci beaucoup, Père Benoît de Sinéty, d'avoir été l'invité de la matinale. Vous sortez ce livre, Lazare le Ravi, un roman vrai, cette amitié Lazare-Jésus. C'est publié aux éditions du Cerf, une belle histoire à méditer en cette semaine 5 qui nous emmène jusqu'à Pâques.